Le siège de Samarie. Au lecteur. Dans les pages qui suivent, le récit du siège de Samarie est employé comme une illustration de vérités importantes, abondamment et explicitement révélées, d'ailleurs, dans d'autres portions de l'Écriture. La parole de Dieu est aussi certaine dans ses menaces que dans ses promesses. En tant que pécheurs perdus, nous ne pouvons absolument être sauvés que par grâce. L'œuvre expiatoire de Christ est l'unique fondement de la paix du pécheur avec Dieu. C'est par la foi que l'on jouit de cette paix. La foi en Christ est accompagnée d'un renoncement complet à toute confiance en soi-même. C'est un devoir, pour tous ceux qui ont goûté combien le Seigneur est bon, 1 Pierre chapitre 2 verset 3, de faire connaître à d'autres la bonne nouvelle de l'Évangile. L'incrédulité, qui rejette le témoignage de Dieu, est ce qui, seul, scelle la perdition du méchant. Telles sont les grandes et solennelles vérités ici exposées, d'après le récit sacré qui leur sert comme de cadre. Que, dans son infinie miséricorde, Dieu veuille que, par la puissante efficace du Saint-Esprit accompagnant la lecture de ces pages, elle contribue à toucher la conscience et le cœur de plusieurs de ceux qui les liront. Le siège de Samarie. De Rois chapitre 6 verset 24 à chapitre 7 verset 20. Samarie était la capitale du royaume d'Israël ou des 10 tribus. Bâtie par Omri, l'un des méchants rois d'une méchante race, elle devint le siège de la royauté de son fils Akab, dont il est écrit qu'il s'était vendu pour faire ce qui déplaît à l'Éternel. 1 Rois chapitre 21 verset 20. À cause de son impiété, un jugement fut prononcé soit sur lui, soit sur sa maison. Mais par un effet du long support de Dieu, l'exécution en fut ajournée au temps de ses coupables descendants et successeurs sur le trône. Le roi, dont il est question dans la portion des Écritures indiquée dans notre titre, et Joram, fils d'Akab. Il ne paraît pas être allé aussi loin que son père, ou que son frère décédé, Akazia, dans la voie de l'impiété déclarée et de la révolte directe contre Dieu. Il ôta la statue de Baal que son père avait faite. Mais il atterra au péché national et constant des 10 tribus, au culte des veaux que Jéroboam avait établi. Il ne s'en détourna point, de Rois chapitre 3 verset 3. Il nous apparaît comme un homme à propre justice, se confiant en des formes extérieures de piété et en des pratiques de dévotion. Mais si sa piété eût été celle du cœur, si sa dévotion eût été celle qui découle d'une connaissance réelle de la grâce de Dieu, il ne se serait pas contenté de l'abandon des formes les plus grossières de l'idolâtrie, telles que son père les pratiquait. Il aurait, de plus, entièrement renoncé au grand péché national, par lequel les 10 tribus s'étaient éloignées de Dieu. C'était là le grand différent entre Dieu et la nation. Aussi longtemps que celle-ci persistait dans cette voie, rien ne pouvait détourner le déplaisir de Dieu. Aussi, ce fut dans les jours de ce roi à propre justice, de ce roi qui, aux yeux de l'homme et comparativement et d'autres, était meilleur que la plupart de ses prédécesseurs, que les premières gouttes de la pluie de la colère divine, qui menaçait le peuple apostat, commencèrent à tomber. Nous verrons, hélas, dans l'histoire qui va nous occuper, de combien peu de valeur est cette dévotion toute extérieure. Le récit que nous voulons méditer est une démonstration de plus d'une vérité que le cœur de l'homme est toujours lent à croire, savoir, que la haine de Dieu contre le péché est une réalité. C'est là un fait des plus sérieux que l'Écriture ne voile ni ne dissimule. Le jugement est, il est vrai, pour Dieu une œuvre étrange. Il en parle lui-même comme de son travail inaccoutumé, Ésaïe chapitre 28 verset 21. Mais quand il se lève pour le jugement, les hommes superbes qui viennent au secours, sont abattus sous lui, Job chapitre 9 verset 13. La parole de Dieu ne connaît pas cette fausse tendresse qui voudrait cacher le danger ou qui cherche à l'amoindrir par des explications, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour y échapper. Non, ces déclarations sont aussi positives que solennelles. En voici quelques-unes. Les méchants seront rejetés en arrière dans le séjour des morts, toutes les nations oublieuses de Dieu. Psaume 9 verset 17. À moins que vous ne vous convertissiez, vous périrez tous de même. Luc chapitre 13 verset 3. La colère de Dieu se révèle du ciel sur toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice. Romains chapitre 1 verset 18. Le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu de flamme, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent point Dieu, et sur ceux qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Lesquels subiront leur peine, une ruine éternelle, de devant la face du Seigneur et de devant la gloire de sa force. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 à 9. Sans doute, cher lecteur, Dieu est tardif à la colère. Il use de longs supports, ne voulant pas qu'aucun périsse. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Mais sa colère est d'autant plus terrible que les coups en ont été plus longtemps différés. Parce que j'ai crié, et que vous avez refusé d'ouïr. Parce que j'ai étendu ma main, et qu'il n'y a eu personne qui y prit garde. Et parce que vous avez rejeté tout mon conseil, et que vous n'avez point agréé que je vous reprisse. Moi aussi, je me rirai de votre calamité. Je me moquerai quand votre effroi surviendra. Proverbes chapitre 1 verset 24 à 26. De ce que le jugement est retardé, les hommes concluent qu'il ne viendra jamais. Voilà ce que tu as fait, et je suis resté muet. Tu t'es figuré que je suis réellement tel que toi. Je te reprendrai, et mettrai le tout devant tes yeux. Comme l'avertissement qui suit immédiatement ces paroles est miséricordieux. Prenez donc garde à ceci, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne mette en pièces, sans que personne délivre. Psaume 50 versets 21 et 22. Et ce ne sont pas seulement les avertissements et les déclarations de l'Écriture, qui font connaître la haine de Dieu pour le péché et sa détermination de le punir. Nombre de faits sont rapportés, dans lesquels, au moyen de jugements temporels et visibles, Dieu a manifesté son aversion pour le péché. Le poison mensonger du serpent, vous ne mourrez nullement, Genèse chapitre 3 verset 4, n'a pas été laissé sans antidote, dans sa funeste action sur les âmes des hommes. Le déluge, la subversion de Sodome, les plaies d'Égypte, la destruction des Cananéens, sont tout autant de témoignages rendus à cette vérité. Il est impossible que le péché demeure impuni. Et dans l'histoire d'Israël, combien d'événements analogues et d'événements frappants, nous sont présentés. Le siège de Samarie en est un. Bien des siècles auparavant, Dieu avait déclaré aux Israélites quelles seraient les conséquences de la rébellion, qui les atteindrait. Il leur avait dénoncé plaie sur plaie, calamité sur calamité, qui devait fondre sur eux dans le cas où ils transgresseraient ses lois. Il avait même prédit qu'ils seraient réduits à une telle extrémité qu'ils en viendraient jusqu'à égorger et à dévorer leurs propres enfants, la femme la plus tendre et la plus délicate d'entre vous, qui n'eût point osé mettre la plante de son pied sur la terre, par délicatesse et par mollesse, regardera d'un œil malin son mari bien-aimé, son fils et sa fille, et la tête de son petit enfant qui sortira d'entre ses pieds, et les enfants qu'elle enfantera. Car elle les mangera secrètement dans la disette de toutes choses, à cause du siège et de la détresse dont ton ennemi te serrera dans toutes tes villes. Deutéronome chapitre 28 versets 56 et 57. Cette épouvantable prédiction fut-elle accomplie? Oui, cher lecteur, quelque effrayant que fût le châtiment qu'elle annonçait, il n'était pas trop effrayant pour que Dieu craignît d'en menacer son peuple, comme d'une juste rétribution de la méchanceté obstinée de ce peuple, et si, aux yeux de Dieu, il n'était pas trop effrayant comme menace, il ne l'était pas davantage lorsque, sa patience n'ayant servi à rien, il ne restait plus qu'à infliger ce châtiment. Soyez-en sûrs, Dieu n'emploie pas de faux épouvantails, il ne fait pas des menaces qu'il ne soit pas prêt à exécuter, lorsque le temps du jugement est arrivé. S'il a dit que des horreurs, telles que celles qui sont décrites en Deutéronome chapitre 28, seraient le partage d'Israël impénitent, eh bien, nous avons l'accomplissement de cette menace dans le récit dont nous nous occupons. Dieu a-t-il dit que les conséquences de l'impénitence finale et de l'incrédulité ne sont rien moins qu'une perdition éternelle? Vous savez bien qu'il l'a dit. Eh bien, soyez sûr, cher lecteur, qu'il en sera positivement ainsi. Ne vous séduisez pas vous-même, ne vous laissez pas séduire par l'idée que Dieu est trop miséricordieux pour punir l'incrédule d'un malheur éternel. Il est si vrai et si fidèle, qu'il n'aurait jamais prononcé une telle sentence sur ceux qui rejettent l'Évangile, si l'impossibilité d'y échapper n'eût pas été la simple et pure vérité. Que le Seigneur préserve nos lecteurs de se faire une idée aussi fausse et aussi pernicieuse de la miséricorde de Dieu. C'est l'accomplissement sur Samarie de l'effroyable menace de Deutéronome chapitre 28, que nous avons cité, qui précipita, pour le roi coupable, la catastrophe, et mit en évidence la valeur réelle de sa piété apparente. Il savait employer le nom de l'Éternel, et comme il passait sur la muraille, il déchira ses vêtements, ce que le peuple vit. Et voilà, il avait un sac sur sa chair en dedans, chapitre 6 verset 30. L'orgueil pharisaïque et la propre justice peuvent mener deuil et jeûner, ils peuvent prendre un air triste et s'imposer une quantité d'austérité arbitraire. Mais ensuite, ils s'imaginent que tous ces actes doivent les recommander à Dieu et créer quelques droits à sa faveur. C'était évidemment le cas pour Joram. Il n'était pas un hardi blasphémateur. Il n'était pas non plus indifférent aux souffrances de son peuple. Au contraire, il y compatissait vivement, et par ses humiliations et ses jeûnes, il espérait engager le Seigneur à éloigner les afflictions sous lesquelles gémissait ce peuple. Ces afflictions étaient, en effet, bien graves. Il y avait une grande famine dans Samarie. Car voilà, ils l'assiégèrent si longtemps, que la tête d'un âne se vendait pour 80 pièces d'argent, et la quatrième partie d'un cap de fiente de pigeon, pour 5 pièces d'argent, chapitre 6 verset 25. Et ce n'était pas là le pire. Comme le roi d'Israël passait sur la muraille, une femme lui cria, en disant, « Ô roi, mon seigneur, délivre-moi. » Et il répondit, « Puisque l'Éternel ne te délivre point, comment te délivrerai-je ? Serait-ce de l'air ou de la cuve ?» Chapitre 6 versets 26 et 27. Comme cette ironique réponse exprime bien l'amertume de son âme. Le rire sauvage d'un maniaque témoigne parfois d'une angoisse plus profonde que les plus lamentables plaintes. Il en était ainsi dans ce cas. Ces paroles du roi revenaient à ceci. T'imagines-tu que les airs sont tellement chargés de grains, que les cuves regorgent tellement du fruit de la grappe, que je puisse t'aider au moyen de l'air ou de la cuve? À moins d'un miracle, à moins que l'Éternel ne te délivre, comment le pourrais-je? Il était donc déjà sur la pente du désespoir. Il demande pourtant à la femme quelle est la cause de sa douleur. « Qu'as-tu ? » lui dit-il. Et en réponse, elle lui fait connaître son différend avec sa voisine. Et elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, et mangeons-le aujourd'hui, et nous mangerons mon fils demain. Ainsi nous avons bouilli mon fils, et l'avons mangé, et le jour d'après je lui ai dit, « Donne ton fils, et mangeons-le. » Mais elle a caché son fils, chapitre 6 versets 28 et 29. Ce récit, presque trop déchirant pour être transcrit du volume inspiré dans les pages d'un écrit humain, remplit jusqu'au bord la coupe de l'angoisse, et manifeste pleinement ce qui est dans le cœur du roi. Il avait jeûné, il s'était vêtu d'un sac, avec la pensée qu'en agissant ainsi, il ferait de l'Éternel son débiteur. Tant qu'il lui restait quelque espérance de réussir par ses moyens, il pouvait garder ses apparences de piété. Mais quand il voit que les choses en viennent à cette extrémité, que ses prières ne sont point entendues, que le sac qu'il porte ne lui sert de rien. Quand il voit que, malgré tout cela, le siège devient toujours plus serré, la famine toujours plus accablante, il s'abandonne au désespoir, et devient l'ennemi déclaré de ce Dieu que naguère il prétendait invoquer et servir. Dieu lui-même est hors de sa portée. Mais il y a un homme, qu'il sait être identifié avec le nom et la cause de Dieu. Et c'est sur lui, le prophète Élisée, qu'il projette de décharger la colère dont son cœur est enflammé contre Dieu lui-même. Dieu me fasse ainsi, et même y ajoute, si aujourd'hui la tête d'Élisée, fils de Saphat, demeure sur lui, verset 31. Le prophète était, à Samarie, et, l'on peut dire, en Israël, l'homme qui, dans ce temps, était le plus près de Dieu. Et c'est sur lui que le monarque veut se venger. Élisée, assis dans sa maison, informe ceux qui l'entourent de l'approche du messager du roi. Il leur parle du bruit des pieds de son maître qui le suit immédiatement. Comme le prophète parlait encore, le roi arrive et dévoile le mystère de ce soudain changement. Il dit, « Voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'attendrai-je plus de l'Éternel ? » Chapitre 6 verset 33. Il s'était complu dans l'idée illusoire qu'il avait servi Dieu et s'attendait à lui. Mais maintenant que la coupe de la calamité est comble, au lieu de s'humilier dans son cœur en reconnaissant sincèrement qu'il avait mérité tout cela, il dépouille la retenue qu'il s'était imposée et accuse ouvertement Dieu de tout ce qui lui arrive. Ce mal vient de l'Éternel. Qu'attendrai-je plus de l'Éternel ? Je pensais l'avoir ému à compassion par mes jeûnes et mes prières. Mais je vois à présent qu'il est inexorable. Ce mal vient de lui, mais je me vengerai. Comme la propre justice et le meurtre des enfants de Dieu se tiennent de près. Qu'était Caïn, le premier qui trempa ses mains dans le sang de son frère? Était-il un profane déclaré, un impie? Non, il était, à sa manière, un adorateur de Dieu. Il avait son autel, sur lequel il présenta son offrande. Qu'est-ce qui le poussa à tuer son frère? Ce fut le renversement de ses espérances de propre justice. Quand il vit que le sacrifice de son frère était agréé et le sien rejeté, il conçut et exécuta cette horrible action. De même dans le cas dont nous nous occupons. Joram se figurait de se rendre agréable à Dieu par ce qu'il appelait son service de Dieu. Et quand il voit la main du jugement s'appesantissant de plus en plus sur lui, jusqu'à ce que, selon lui, il ne pourrait pas en supporter davantage, alors le masque tombe, le dévot devient un meurtrier, et, dans sa haine contre Dieu, il fait vœu de se venger sur le prophète de Dieu. Mais il est question, dans l'Écriture, d'un plus haut et plus affreux degré de la méchanceté humaine. Le roi d'Israël ne connaissait personne qui fût plus près de Dieu qu'Élisée. Or, dans l'accomplissement du temps, Dieu envoya son Fils, dans la personne duquel Dieu s'approcha assez de l'homme, pour que tout ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme envers Dieu se manifestât immédiatement vis-à-vis de son Fils. Eh bien, quel fut l'accueil qui lui fut fait? Quand, dans la plus humble condescendance et dans l'amour le plus tendre, il revêtit la nature de l'homme, pour se faire l'infatigable serviteur de ses besoins, le médecin de ses maladies et le consolateur de ses peines, quand il allait de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous la puissance du diable, Actes chapitre 10 verset 38. Comment fut-il reçu par ceux qu'il venait servir? Eux aussi, pour compléter le parallèle, était le peuple religieux d'alors. Comment accueillirent-ils le Fils bien-aimé de Dieu? Comment répondirent-ils à tout l'amour avec lequel il venait habiter au milieu d'eux? La réponse, telle qu'il la donne lui-même, la voici. Ils ont vu, et ils ont haï moi et mon Père. Jean chapitre 15 verset 24. La réponse, telle qu'elle est dans leur bouche, la voici. Ôte, ôte, crucifie-le, crucifie-le. Jean chapitre 19 verset 15. Tel est le cri de rage par lequel il demande son sang. Et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Matthieu chapitre 27 verset 31. Qu'est-ce que Dieu fit en retour de cette abondance d'iniquité? Quelle fut la réponse de Dieu à ces manifestations de la haine du cœur de l'homme contre lui? Quand Joram était sur le point de faire mourir le prophète, est-ce que Dieu arrêta son bras par les foudres de sa colère? Quand les hommes eurent mis à mort le propre Fils de Dieu, est-ce que Dieu les balaya immédiatement avec le balai de la destruction? Non. Dans l'un et l'autre cas, là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Romains chapitre 5 verset 20. Quant à Joram, Dieu oppose à sa fureur le témoignage de sa propre bonté, de sa grâce. Alors Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, demain, à cette heure-ci, on donnera le sac de fine farine pour un sicle, et les deux sacs d'orge pour un sicle, à la porte de Samarie. » Chapitre 7 verset 1. C'est comme si le Seigneur eût dit, « Maintenant que votre vrai caractère est mis en évidence, que vous vous êtes montré un ennemi déclaré de Dieu. Je puis agir librement selon ma souveraine grâce et rendre immédiatement l'abondance à la ville affamée. Tandis que vous jeûniez et que vous portiez un sac sur le corps, une semblable intervention de ma part aurait pu paraître une approbation ou une récompense de vos actes de propre justice. Mais maintenant que vous êtes prêt à tuer mon prophète, un pareil malentendu n'est plus possible. La délivrance de la ville ne peut que magnifier les richesses de ma grâce, et la grâce aura son cours. Mais quelque merveilleux que fût ce triomphe de la grâce, il ne peut pas supporter la comparaison avec la grâce manifestée en la croix du Christ. Jamais encore la haine de l'homme pour Dieu ne s'était signalée comme elle le fit à la mort de Jésus. Lorsque l'indignation générale est réveillée et excitée par quelque récit de cruauté ou d'injustice de l'homme envers son prochain, vous entendrez beaucoup de gens exprimer hautement leur étonnement sur le long support de Dieu. Ils sont surpris, disent-ils, que Dieu puisse supporter un monde où se passent de telles abominations. Le supporter ? Un jour Dieu, du haut des cieux, était témoin du meurtre de son Fils bien-aimé. La miséricorde même que Jésus avait témoigné aux malheureux devenait, dans la bouche de la multitude, un sujet de raillerie et d'outrage contre lui. Il a sauvé les autres, disait-on, il ne peut se sauver lui-même. Matthieu chapitre 27 verset 42. Telle était la scène que Dieu contempla une fois d'en haut. Or qu'est-ce qui s'ensuivit ? Fût-ce la soudaine destruction des meurtriers, et du monde dont ils étaient les représentants ? Non, ce fut en la croix que la plus complète expression de l'inimitié de l'homme fut rencontrée par le déploiement de la plénitude de l'amour de Dieu. Le sang répandu par les mains des méchants fut accepté comme l'expiation des péchés de l'homme. Et Dieu fit proclamer que quiconque de la race humaine coupable se confierait en ce précieux sang, recevrait le pardon de ses péchés et la participation à la vie, au bonheur et à la gloire du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quel langage pourrait décrire la grâce ici manifestée? Si l'inimitié déclarée de Joram contre Dieu rendait évident que la délivrance de Samarie était par grâce et non par les œuvres, le ministère de la réconciliation, envers un monde coupable du meurtre du Fils bien-aimé de Dieu, est assurément l'expression la plus élevée de la grâce souveraine. Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec soi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Et quand ce monde eut répondu à ses offres de paix par le meurtre de son Fils incarné, au lieu d'en prendre immédiatement vengeance, il envoie de nouveaux messagers, qui s'écrient : Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, comme si Dieu exhortait par notre moyen. C'est pour le Christ que nous supplions, disant : Soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Ce n'est pas ici une pure continuation ni une répétition des appels adressés avant la mort de Christ. La proclamation du pardon est maintenant basée sur ce fait. Les mains des méchants ont été, il est vrai, les instruments de la mort du Christ. Mais ce que l'Évangile proclame, c'est le rôle de Dieu dans cette œuvre merveilleuse. Car celui, Christ, qui n'a pas connu le péché, il, Dieu, l'a fait être péché pour nous, afin que nous, nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Ah, l'on peut bien dire en vérité, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains chapitre 5 verset 20. Mais revenons à notre récit. L'homme de Dieu avait déclaré que, dans 24 heures, il y aurait abondance de vivres à la porte de Samarie. Au milieu des multitudes mourant de faim, qui étaient ceux qui, les premiers, profiteraient de cette abondance? C'étaient quatre hommes qui, tout en partageant avec leurs concitoyens les calamités dont tous souffraient également, portaient encore en eux-mêmes un mal qui les rendait plus sensibles que d'autres à l'énorme fardeau de ces calamités. Ils étaient dans un état plus désespéré que nul autre dans la ville, et ils en avaient la conscience. Ils étaient lépreux, et comme tels, séparés du reste des habitants. Ils se tenaient à l'entrée de la porte. Et certes, si l'on vendait à des prix exorbitants la plus révoltante nourriture, il n'était guère probable que l'on pensât à pourvoir aux besoins de pauvres lépreux. Or il y avait à l'entrée de la porte quatre hommes lépreux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi demeurons-nous ici, jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est, et nous mourons là. Et si nous demeurons ici, nous mourons aussi. Maintenant donc venez, et glissons-nous au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Chapitre 7 versets 3 et 4. Que les voies de Dieu sont admirables. On peut bien dire que l'extrémité de l'homme est l'opportunité de Dieu. C'est aussi l'opportunité de la foi, et quelque peu de vraie foi qu'il put y avoir dans la conclusion à laquelle arrivèrent ces lépreux. Leur résolution désespérée est une frappante représentation des émotions qui souvent précèdent et accompagnent les premiers actes de foi. Toutes les ressources ordinaires étaient épuisées. Se tenir tranquille, ou entrer dans la ville, n'offrait, l'un et l'autre, aucune perspective que celle d'une mort certaine. Se rendre au camp des Syriens pouvait être pour eux un moyen de salut. Sinon, la mort, d'ailleurs leur partage assuré, est le pire qui puisse leur arriver. Ils ne peuvent que mourir. Quel tableau des sentiments avec lesquels maint pécheur chargé, tremblant, désespéré, est tombé aux pieds de Jésus, avec les mots, pour ainsi dire, de ses lépreux sur les lèvres, « Je ne puis que périr. Et si je dois périr, que je périsse au moins aux pieds du Seigneur. » Mais, là, nul n'a jamais péri. Dieu avait déjà auparavant pensé à ces pauvres lépreux près de mourir, et il avait opéré, dans le camp des Syriens, une œuvre qui devait apporter la délivrance à la ville de Samarie. Tandis que les habitants étaient à bout d'expédients, et le roi dans un complet désespoir, Dieu lui-même avait combattu pour eux, en faisant entendre aux Syriens un grand bruit, qui leur apparut comme celui d'une puissante armée qui s'avançait contre eux, ce qui les remplit d'une telle terreur, qu'ils avaient laissé leur tente, et s'étaient enfuis pour sauver leur vie, en abandonnant derrière eux tout leur trésor et toutes leurs provisions. Les lépreux ne savaient rien de tout cela, quand ils prenaient leur résolution désespérée de se rendre au camp des Syriens. Dieu, sans doute, leur avait mis la chose au cœur, car lui savait que l'armée des Syriens avait été mise en fuite et dispersée. Les lépreux savaient que, dans le camp syrien, il y avait des provisions, par le moyen desquels ils pouvaient être préservés de mourir de faim. Et il était possible que les Syriens eussent pitié d'eux et les laissassent vivre. Tout ce qu'ils craignaient en approchant du camp, c'était que les Syriens les fissent mourir. Mais il n'y avait plus de Syriens. Il y avait des provisions en abondance, et les Syriens s'étaient enfuis. Déjà la bataille avait été livrée. Déjà la victoire avait été remportée. Et au lieu des ennemis qu'ils avaient sujet de craindre, ils trouvent des tentes remplies de vivres pour leurs besoins actuels si pressants, et abondance de provisions pour l'avenir. Sans qu'ils se rencontrent un seul ennemi pour leur en disputer la possession. Il y a cette différence, entre le fait qui nous occupait le cas d'un pauvre pécheur qui cherche un refuge auprès de Jésus, que, tandis que les lépreux n'avaient pas une parole de Dieu qui les assura qu'ils trouveraient la délivrance au camp des Syriens, le pécheur a la parole de Dieu, qui lui déclare que le salut se trouve en Christ et en Christ seul. Et cependant, en fait, oh, qu'ils sont peu nombreux ceux qui vont à Christ, à moins d'y être, en quelque sorte, forcés par le sentiment de leur complète ruine, et de l'état totalement désespéré dans lequel ils se trouvent. Combien n'en est-il pas parmi vous, chers lecteurs chrétiens, qui pourraient attester que, tant qu'il restait en vous quelque confiance en qui que ce soit ou en quoi que ce soit, vous refusiez d'aller à Jésus. Aussi longtemps que vous mettiez encore quelque espérance en vos œuvres, ou en votre repentance, ou en des ordonnances, ou en quelque autre chose, c'était en vain que Christ vous était présenté. Mais quand vous avez compris que votre cas était sans espérance, quand tous vos refuges de mensonges vous ont manqué, quand vous en êtes venu à ne voir que transgression derrière vous, souillure au dedans, jugement au devant de vous, un Dieu justement offensé au-dessus de vous, un béant abîme de tourment au-dessous de vous, et personne pour vous secourir ni à droite ni à gauche, alors peut-être, vous vous êtes dit à vous-même. Je suis sans espérance, misérable, perdu. Mais Dieu parle de salut en Christ. Mais Christ dit, celui qui vient à moi, je ne le jetterai point dehors. Jean chapitre 6 verset 37. Donc il y a encore de l'espoir pour moi. Dans tous les cas, il n'y en a point ailleurs. Il est impossible que je périsse, si je me confie en ces miséricordieuses paroles, et je suis sûr de périr si je ne le fais pas. Combien de chrétiens peuvent se rappeler de semblables exercices d'âme? Néanmoins, quoique ce soit souvent en tremblant que l'âme s'abandonne à Christ, et au témoignage que Dieu lui rend, quand ce témoignage est une fois reçu, comme l'âme se réjouit en éprouvant que ses espérances sont infiniment plus que réalisées, et qu'il ne lui reste plus de motif de craindre. Nous pouvons en avoir eu auparavant une faible, extrêmement faible idée. Mais le fait est, que lorsque nous sommes amenés à risquer, pour ainsi dire, nos âmes sur le témoignage que Dieu a rendu de son Fils, nous les confions à une œuvre depuis longtemps accomplie, à une victoire depuis longtemps remportée. Œuvre, victoire, des fruits et du butin desquels, nous sommes par grâce rendus participants. Ni le roi, ni les citoyens, ni même les quatre lépreux, ne savaient rien de ce qui se passait en dehors de la ville, dans le camp des Syriens. Mais Dieu connaissait tout cela. Et c'était sur cette connaissance de Dieu qu'était basé le témoignage du prophète, lorsqu'il déclarait que, dans moins de 24 heures, l'abondance régnerait dans la ville affamée. De même, chers lecteurs, c'était chose inconnue, soit à vous, soit à moi, que Jésus était mort. Ceux-là même qui avaient été les témoins oculaires de ce fait, en ignoraient la prodigieuse importance et l'immense signification. C'est là, chers lecteurs, que tout ce qui s'opposait au salut du pécheur a été surmonté. C'est là qu'a été accomplie l'œuvre puissante, au moyen de laquelle est infailliblement assuré le salut immédiat, éternel, de tout pécheur quelconque qui, par grâce, croit en Jésus. Dès que les lépreux étaient entrés à l'un des bouts du camp, ils avaient vu qu'il n'y avait personne, chapitre 7 verset 5. Aucun de ses ennemis qu'ils redoutaient. Au lieu de cela, ils vinrent dans une tente, ils mangèrent, ils burent, ils prirent de là de l'argent, de l'or, et des vêtements, et ils s'en allèrent, et les cachèrent. Après quoi ils retournèrent et entrèrent dans une autre tente, et prirent de là aussi des mêmes choses, et s'en allèrent et les cachèrent, chapitre 7 verset 8. Ainsi, chers lecteurs, si, désespérant de trouver le salut ou que ce soit ailleurs, vous remettez votre âme à Christ, en croyant le témoignage que Dieu a rendu de son Fils, vous verrez que tous vos ennemis ont été par lui combattus et vaincus, et que vous n'avez plus qu'à partager avec lui les dépouilles de la victoire que son bras seul a remportée. Est-ce la loi que vous craignez ? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en étant fait malédiction pour nous. Galates chapitre 3 verset 13. Est-ce la colère que vous redoutez, la colère de Dieu à cause du péché? Christ l'a enduré à votre place. Ta colère pèse sur moi, et tu m'as accablé de tous tes flots. Psaume 88 verset 7. Disait-il à Dieu sur la croix. Est-ce le péché qui vous angoisse? Maintenant il a été manifesté une fois, en l'achèvement des siècles, pour l'abolition du péché, au moyen du sacrifice de lui-même. Hébreux chapitre 9 verset 26. Est-ce la mort qui vous effraie? Il mourut, afin que, par le moyen de la mort, il rendit impuissant celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant tout le cours de leur vie condamnés à l'esclavage. Hébreux chapitre 2 versets 14 et 15. Est-ce la sainteté de Dieu qui vous remplit de terreur? C'est à Dieu lui-même que l'œuvre expiatoire de Christ a été offerte. Et ce précieux sacrifice l'a tellement satisfait, qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a placé à sa droite. C'est Dieu lui-même qui vous annonce l'efficace du sang purifiant de Christ, en vous déclarant que par lui, quiconque croit est justifié de toutes choses. Actes chapitre 13 verset 39. C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8 verset 33. Si complète est la victoire de Christ, les résultats en sont si précieux pour le pécheur qui croit en Jésus, que, comme l'apôtre, il peut dire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains chapitre 8 verset 31. Vie, justice, adoption. L'Esprit lui-même comme sceau, onction, art. Pleine participation avec Christ à toute la bénédiction et la gloire à laquelle, comme homme ressuscité, il a été élevé. Telles sont, entre autres, les grâces dont sont enrichis ceux qui reçoivent le témoignage de Dieu touchant Jésus. Mais dans quel but, mes frères, de telles richesses de grâce nous sont-elles accordées? Cette question est naturellement réveillée par ce que notre récit rapporte de ces quatre lépreux. Ils commencent par apaiser leur faim. Ensuite ils s'enrichissent des dépouilles du camp ennemi. Puis il leur revient à l'esprit qu'il y avait, dans la ville, d'autres gens à qui cette abondance était destinée aussi bien qu'à eux-mêmes. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonne nouvelle, et nous ne disons mot. Si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, l'iniquité nous trouvera. Maintenant donc venez, allons, et faisons-le savoir à la maison du roi. Chapitre 7 verset 9. Or n'y a-t-il pas, chers lecteurs chrétiens, des âmes qui périssent, et pour lesquelles nous aussi nous devons être des messagers de bonnes nouvelles, par le fait même que, par grâce, nous connaissons nous-mêmes les bonnes nouvelles? Il convient, sans aucun doute, que nous soyons d'abord au clair et en repos quant à notre propre salut. Il convient que nous nous soyons appropriés, par la foi, ces dépouilles conquises pour nous sur la mort et sur l'enfer, par Jésus, le puissant vainqueur de l'une et de l'autre. Dieu ne chargera jamais d'annoncer les bonnes nouvelles de son salut, quelqu'un qui ne jouit pas de ce salut. Avec tout cela, la question reviendra toujours, est-ce uniquement pour notre propre sûreté et notre bonheur que le Christ nous a été révélé, et que nous avons été faits participants du Christ? Assurément non. Ce jour est réellement un jour de bonnes nouvelles, et ce n'est pas bien à nous de ne rien dire. Chers lecteurs, qui que vous soyez, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, 1 Pierre chapitre 2 verset 3, si vous avez mangé de la chair et bu du sang du Fils de l'homme, Jean chapitre 6 verset 53, pensez aux âmes affamées. Oh, qu'elle est inconnue cette nourriture céleste, propre à donner la vie ainsi qu'à la maintenir. Pensez à elle avec compassion, et parlez-leur des choses merveilleuses qui vous ont été dévoilées. Il n'est besoin ni de talent particulier ni d'instruction savante pour s'employer à ce ministère d'amour. Les lépreux se bornent à exposer tout simplement les faits. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voilà, il n'y a personne, et on n'y entend la voix d'aucun homme. Mais il y a seulement des chevaux attachés, et des ânes attachés, et les tentes sont comme elles étaient. Chapitre 7 verset 10. Cela suffisait. Des tentes remplies de provisions, et pas un seul ennemi pour en disputer la possession. C'était la vie et le salut pour une ville dont la famine consumait les habitants. Tout ce qu'il fallait, c'était d'être informé où se trouvait une telle abondance. Il en est précisément de même des âmes qui sentent leur état de misère et de perdition. Ce dont elles ont besoin, ce n'est ni d'éloquence ni de science, mais c'est de connaître comment Dieu répond à leurs doutes angoissants, et aux gémissements de leur cœur agité sous le poids du péché. Cette réponse, ne pouvez-vous pas la leur donner? Ne pouvez-vous pas leur dire comment tombèrent les chaînes dont vous étiez autrefois liés? Ce qui vous délivra du fardeau dont vous étiez accablé? Où vous avez trouvé pardon et paix, liberté et sainte joie? Ne pouvez-vous pas leur montrer le jardin où Jésus fut en agonie et sua des grumeaux de sang? La croix sur laquelle il dit, c'est accompli, Jean chapitre 19 verset 30. Après quoi il rendit l'esprit? Le sépulcre vide, où les femmes et ses disciples cherchèrent en vain son corps au matin du troisième jour? N'auriez-vous rien à dire du sceau rompu, de la pierre roulée, Luc chapitre 24 verset 2, des gardes qui étaient comme morts, Matthieu chapitre 28 verset 4, des anges qui attestent qu'il n'est pas là, mais qu'il est ressuscité, Matthieu chapitre 28 verset 6, des linges sur la terre, et du mouchoir plié dans un lieu à part, Jean chapitre 20 verset 6 et 7, témoignant qu'il s'était relevé de son lit d'humiliation avec le calme, la tranquillité et la liberté d'esprit d'un vainqueur? Auriez-vous oublié ces paroles? Paix vous soit, Jean chapitre 20 versets 19 et 26, qu'il prononça en paraissant au milieu de ses disciples timides et tremblants et en leur montrant ses mains et son côté? Ne pourriez-vous pas parler de son ascension à la droite de Dieu, et du témoignage du Saint-Esprit envoyé du ciel, déclarant que son sang répandu sur la terre a été accepté dans les cieux, où il garantit une place, un trône, une patrie à tout pauvre coupable qui cherche un refuge sous l'aspersion de ce sang? Ces choses ne sont-elles pas plus merveilleuses que des tentes abandonnées, qu'une surabondance du pain qui périt, et toute l'opulence d'un camp syrien par-dessus? C'est vraiment un jour de bonnes nouvelles, et nous ne devons pas nous taire. C'est maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Que Dieu veuille accorder la grâce, soit au lecteur soit à l'écrivain de ces pages, que le reste de cette courte journée de notre vie sur la terre soit employé à proclamer ces nouvelles bénies. Mais nous n'avons pas encore tiré de notre récit toutes les instructions qu'il nous donne. Il nous offre un exemple bien sérieux des conséquences de l'incrédulité. En effet, là même où ces conséquences ne sont pas complètement ruineuses pour l'âme, nous voyons l'incrédulité contribuer à retarder le moment de la délivrance. Quand le rapport des 4 hommes lépreux est annoncé au roi, au lieu d'y voir l'accomplissement de la parole d'Élisée, l'intervention de la puissance et de la grâce de Dieu pour la délivrance de la ville. Tout ce que son esprit sombre et défiant peut y discerner, c'est un stratagème des Syriens pour la destruction des habitants de Samarie. Les Syriens savent que ces derniers sont affamés, ils cherchent à les attirer hors de la ville par l'espoir de trouver des vivres. Et puis, de quelque embuscade où ils se tiennent cachés, ils fondront sur les Israélites et les égorgeront. Oh, que l'incrédulité est habile à se tromper. Elle peut jeûner et porter la haie, elle peut courber la tête comme le jonc. Mais quand la parole de Dieu prédit la délivrance, et que ceux qui en ont déjà joui la proclament, l'incrédulité, dans son impie désespoir, s'est tirée des motifs de découragement des faits mêmes, par le moyen desquels la délivrance a été accomplie. Heureusement pourtant que, parmi ceux qui entourent le roi, il y a des serviteurs que la famine a rendus plus sages que le roi lui-même, en sorte que, d'après leurs conseils, des messagers sont expédiés pour s'assurer de l'exactitude du rapport des lépreux. Le chemin se trouve couvert de vêtements, de hardes, de provisions, tellement qu'il ne reste plus aucun doute quant à la fuite de l'armée syrienne. Bientôt l'abondance du camp est transportée dans la ville, et cette parole de l'Éternel est accomplie à la lettre. On donna le sad de fine farine pour un sicle, et les 2 sads d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Chapitre 7 verset 16. Mais il y eut un homme bien malheureux qui, alors que cette parole avait été prononcée, l'avait traité avec dédain et mépris. Quand l'Éternel ferait maintenant des ouvertures au ciel, cela arriverait-il? Verset 2. Quelle affreuse présomption! Le Dieu qui ne peut mentir déclare que cela sera. Tandis que ce capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, dit que cela ne peut être. Il faudrait, pour que la chose arrive, qu'il se fît des ouvertures au ciel, s'écrit-il ironiquement. Cela arrivera, dit le prophète, et il aurait pu ajouter, sans qu'il y ait des ouvertures au ciel. Mais il ajoute, voilà, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et cette parole aussi fut accomplie. C'est le camp des Syriens qui doit fournir l'abondance que cet homme présomptueux déclarait ne pouvoir être obtenu qu'au moyen d'ouvertures dans le ciel. La parole de Dieu s'accomplit, les vivres arrivent en profusion jusque sous les yeux de ce moqueur. Or remarquez avec quelle solennelle exactitude se réalise cette vérité, qu'un seul iota ni un seul trait de lettre de la parole de Dieu ne peut passer. Matthieu chapitre 5 verset 18. Le roi donne charge à ce capitaine de garder la porte, où il est pressé par une telle masse de gens, qu'il est foulé par eux et qu'il en meurt. Or lorsque l'homme de Dieu avait parlé au roi, en disant, « Demain au matin, à cette heure-ci, on donnera à la porte de Samarie les 2 sacs d'orge pour 1 sicle, et le sac de fine farine pour 1 sicle. » Ce capitaine-là avait répondu à l'homme de Dieu, et avait dit, « Quand maintenant l'Éternel ferait des ouvertures au ciel, ce que tu dis pourrait-il arriver ?» Et l'homme de Dieu avait dit, « Voilà, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il lui en arriva donc ainsi. Car le peuple le foula à la porte, de sorte qu'il mourut. Chapitre 7 verset 18 à 20. Que le Seigneur te préserve, cher lecteur, d'un semblable jugement. La parole de Dieu t'est maintenant adressée, te garantissant pardon, paix, liberté, vie éternelle, bénédiction inflétrissable avec Christ, si seulement tu crois en lui. Il se peut que jusqu'ici tu aies été indifférent à ce témoignage de l'amour de Dieu. Il se peut que ton cœur y soit encore insensible ou que, comme ce capitaine samaritain, tu le rejettes encore. Mais prête l'oreille à cette parole, avant de mettre de côté les pages qui sont sous tes yeux. Si tu vis et meurs en rejetant la parole de Dieu, le jour est proche où tu verras que tout ce que tu viens d'entendre est la vérité. Oui, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Le Sauveur que tu as méprisé, tu l'apercevras alors dans la gloire. Oui, et tu verras, avec lui et dans la même gloire que lui, plusieurs de ceux qui, à ton jugement, ont été d'aussi grands et même de plus grands pécheurs que toi. Mais, par grâce, ils ont reçu le témoignage que tu méprises et rejettes. Ils le trouvent véritable à leur éternel bonheur. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en goûteras point. Veuille le Seigneur, dans sa miséricorde, faire que cet avertissement te pousse à comprendre, avant qu'il soit trop tard, la folie aussi bien que l'impiété de l'incrédulité. Que le Seigneur te donne de connaître le jour de ta visitation, et d'entendre, pendant qu'elle parle encore, la voix de Jésus, qui déclare, « Celui qui vient à moi, je ne le jetterai point dehors. » Jean chapitre 6 verset 37.